TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous abordons un thème très important et d'actualité depuis quand même pas mal de temps maintenant. Nous allons parler de la charge mentale. Comment arrêter de la subir? Comment arrêter de subir ces assauts dans nos pensées? On est fatigué, on n'arrête pas de penser, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Vous êtes en train de regarder l'émission, vous pensez à votre lessive, à votre repas, à vos enfants, à votre mari. Et ça n'arrête pas. Et on va voir toute cette semaine avec nos invités comment changer nos modes de pensée. Bonjour Nathalie, bonjour Yvan.
Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien? Et bonjour Mathilde aussi,
bonjour,
qui est avec
Annabelle.
Nous, fidèle au poste. Donc Nathalie, Yvan, vous êtes pasteur à Paris de l'église Emelka, enfin à Paris, à Créteil, depuis quelques années. Je vais vous laisser vous présenter.
Tu veux le faire ou pas? Donc c'est une église, oui, c'est vraiment Paris, hein, c'est collé à Paris. C'est une église qui rassemble à peu près 1500 personnes le dimanche et beaucoup... de personnes de cultures différentes. C'est un brassage, c'est un énorme brassage. On a énormément de nationalités. Et du coup, à long terme, on sera tous métis.
Est-ce que t'as des Coréens dans ton église?
Oui.
C'est bien.
Oui, on a des Coréens. On a eu une arrivée massive, un quart de Chinois maintenant.
Wow.
C'est juste top, top, top. Et il nous manquait juste ça pour finir l'arc-en-ciel. Donc, on est maintenant vraiment bien. Et donc, comme tout le monde se marie, la troisième génération, on sera...
super multiple.
Toutes les couleurs du monde.
Excellent. Et vous êtes mariée depuis?
Alors, on est mariée depuis 12 ans. C'est ça, hein, voilà. Et du coup, on a deux enfants. Donc, okay. Ethan et Shaina, donc 5 ans et 8 ans. Voilà, donc on est dans le ministère depuis pareil 12 ans, en fait, puisque moi, Yvan était déjà pasteur. Et puis, quand on s'est mariés, j'ai rejoint le train en marche. Okay, voilà, mariage, ministère, voilà, c'est...
Ah, super. Mathilde me disait pareil que vous aussi, vous êtes mariée et tout de suite, ça a commencé.
Ouais, moi, j'ai poursuivi mon travail séculier à l'époque, mais mon mari venait de sortir un album gospel, puis on a commencé à tourner avec l'album, il prêchait, puis on est entré dans le ministère il y a 20 ans.
Oh! En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir et je suis sûre que vous aussi, vous êtes heureux d'être parmi nous. C'est ça qui est génial. Et Nathalie, Nathalie, je le précise pour ceux qui peut-être te connaissent à MLK dans votre église. Mais d'habitude, toi, t'es plus un peu la femme de l'ombre.
Oui, c'est ça.
Alors, je te dis vraiment merci particulièrement d'avoir accepté l'invitation à Parole de Femme de venir nous partager à propos de ce sujet. On a vu la charge mentale qui est vraiment c'est quelque chose je pense qui est sorti au cours des dernières années, en tout cas le terme, oui, parce que ça a toujours existé finalement, on va le voir que ça fait très très longtemps et peut-être prendre le temps déjà de définir qu'est-ce que la charge mentale. On l'a dit, on peut le comprendre, c'est d'avoir cet assaut, ce flux de pensée constant. Peut-être Yvan, tu peux nous en dire plus.
Mais non, c'est vraiment s'inquiéter. S'inquiéter, c'est le verbe qui correspond le plus. S'inquiéter de qu'est-ce qui va se passer, quelle chose. Alors, c'est toutes les personnes qui ont dans leur tête des to-do list, tout ce qu'ils doivent faire. Ben, c'est une énorme pression de dire, est-ce que je vais réussir à faire tout ça dans ma journée de 24 heures ou dans ma semaine, etc. Donc, s'inquiéter des choses, ça peut être s'inquiéter aussi des personnes. Lorsque on a une famille qui est dysfonctionnelle ou lorsque on doit gérer peut-être un enfant malade ou une situation que l'on n'avait pas anticipée, relationnelle dans le couple, etc. L'inquiétude de comment l'autre va agir, comment je peux aider l'autre, je ne sais pas. Et ça, c'est un deuxième type de charge mentale. Donc, s'inquiéter des choses, s'inquiéter des personnes et puis s'inquiéter de soi-même. Alors là, normalement, ça devrait aller. Ben non, en fait. Il y a la crainte de dire est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que je suis bien dans ma destinée? Est-ce que je fais bien mon appel? Est-ce que si Dieu me... j'allais au ciel aujourd'hui, est-ce que je suis bien en train de faire ce qu'il veut? Est-ce que je suis bien dans mon identité? Pour les personnes qui ont des problèmes d'identité, enfin bref, ça peut être compliqué. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Jésus est la solution, on en parlera.
C'est bon déjà de le dire, si jamais quelqu'un coupe l'émission tout de suite, on a eu la réponse.
C'est fini, ça va plus du tout.
Mais c'est intéressant de savoir qu'on peut identifier ces trois catégories, parce que quelquefois, on parle de charge mentale, on parle d'inquiétude, on peut se dire, mais non, moi, je suis pas inquiet, je pense que demain, ça va bien se passer. Mais en fait, quand on cible le fait
d'être tout le temps en introspection, comme tu disais, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis à ma place, bah c'est une forme d'inquiétude en fait. Et peut-être que plusieurs personnes n'avaient jamais fait le lien, mais c'est ce qui tourne constamment, puis qui finalement entraîne de l'anxiété. Et puis on a discuté un petit peu avant les émissions avec toi Nathalie, puis tu me disais que avant t'étais vraiment de nature très anxieuse.
Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que la charge mentale aussi, comment dire, affecte les gens aussi selon leur personnalité, donc plus ou moins. Donc c'est vrai que moi, à la base, je suis d'une nature plutôt anxieuse. Donc forcément, toute forme de stress ou d'inquiétude m'affectait directement. Donc j'avais
N'affecte plus ton micro.
Oui,
s'il
tout
te
à fait. Donc voilà. Donc du coup, si vous voulez, j'avais plus de mal, on va dire, à gérer en fait toutes ces inquiétudes dans ma tête, etc. Donc j'ai dû apprendre, réapprendre aussi, à m'appuyer sur Dieu, à mieux m'organiser aussi, etc. Donc à mettre des choses en place dans ma vie.
Donc c'est le témoin vivant que
je suis. On peut s'en sortir. Je me soigne encore tous les jours. Je pense que c'est un combat aussi quotidien de pas se laisser de pas se laisser justement envahir par toutes ces pensées qui peuvent nous écraser, et puis arriver un moment où c'est le burn-out, où là on craque complètement, et ça arrive, donc surtout dans notre société.
Et c'est pour ça qu'on veut en parler, parce
tout
que ça fera un petit peu faire l'autruche de dire oui, mais nous chez les chrétiens ça n'arrive pas.
Tout à fait.
Ça arrive, l'inquiétude ça arrive, mais c'est justement de savoir comment réagir, comment avoir la bonne réaction pour ne pas arriver ne pas arriver au burn-out. Et puis on sait même des pasteurs, des ministères, tout un tas de gens l'ont vécu, et aujourd'hui on veut apporter des solutions et des personnes qui ne sont pas encore dans cet état-là, mais pour que ça n'arrive jamais. Et c'est drôle, parce que je sais pas si c'est paradoxal ou si c'était la suite logique finalement des choses, mais t'étais plutôt de nature anxieuse, mais t'as choisi un métier qui était pas ultra apaisant, moi, personnellement, mais
oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi je suis infirmière de formation, de profession, et donc moi j'ai été pratiquement toute ma carrière dans des services assez lourds, puisque j'étais en cancérologie. Donc, et quand j'ai débuté, j'avais 22 ans, et donc je faisais beaucoup d'accompagnement de personnes en fin de vie, et accompagnement aussi des familles. Mais c'est vrai que pour moi, déjà, depuis toute petite, ça brûle en moi, et j'avais vraiment envie d'aider les autres, etc. Et j'avais, je pense, toute petite, cette sensibilité aussi des autres. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir aider les gens. Enfin, il fallait que ma vie serve à quelque chose. Je voulais être utile dans ma vie. Donc c'est vrai que je me suis orientée rapidement vers ce métier. Alors j'avoue, au début, quand on est étudiant infirmière, on se dit, je vais aller aux urgences, je vais faire la réanimation, un peu comme dans les séries télévisées.
Moi, je me suis jamais.
Et en fait, mon premier poste, j'ai pas eu le choix. On m'a dit, vous serez, à l'époque, donc c'était en médecine pneumologique. Alors là, c'était pas du tout, quelque chose qui m'attirait, puis je connaissais pas. Et en fait, je ne savais pas. En fait, c'était essentiellement donc de la cancérologie, donc des gens qui avaient des cancers du poumon. Donc c'est un cancer qui est très très grave. Et en fait, tout de suite, ça m'a plu, parce que c'était très très riche. Sur le plan humain, et du coup ça a été vraiment le coup de cœur aussi, et c'est vrai que malgré ma nature, j'ai été vraie aussi. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais malgré tout, les gens, les personnes, les patients sont touchés aussi, je pense, par le fait d'avoir des soignants qui les accompagnent, mais qui sont aussi vrais, qui des fois qui laissent transparaître l'émotion, etc. Moi, ça m'arrivait de pleurer avec les familles, et ça, je pense que ça touche bien plus que quelqu'un qui va être complètement imperméable aux émotions, quoi. Donc après, je vous cache pas, ça a été tous les jours, c'était difficile pour moi. Enfin, c'était un effort, quoi. J'étais hors de ma zone de confort, en fait. Tous les jours, j'étais hors de ma zone de confort, mais malgré tout, enfin, je sais que Dieu était avec moi, et c'est lui aussi qui m'avait donné peut-être ce don, en fait, d'empathie, quoi. Pour les gens, donc.
Mais l'empathie, c'est ça, l'empathie, ouais. À la fois, c'est ce qui a fait de toi. Là, on parle du cadre professionnel de l'infirmière. C'est ce qui faisait de toi peut-être une bonne infirmière, qui était pas méchante, qui faisait des soins. C'est vraiment à la militaire, là, ça fait un petit peu peur. Mais d'un autre côté, c'était aussi ce qui ouvrait la porte à la charge mentale, et puis à l'inquiétude qui pouvait venir avec. Donc, du coup, comment doser et gérer cette empathie?
C'est un peu le paradoxe. faudrait déculpabiliser toute personne qui se dit « Oh là là, j'ai trop d'inquiétudes, je suis une mauvaise chrétienne, j'arrive pas à me décharger. Ouais. » À la base, c'est merveilleux d'être en empathie. Empathie, c'est-à-dire souffrir avec. Et Salomon, il avait compris, parce que quand il écrit dans Ecclésias, il dit « Accroître sa conscience, c'est accroître ses douleurs. » Et donc, c'est vrai que plus on aime les autres, plus on veut leur bien, plus on veut les soulager, plus soi-même, on va porter une part de leur douleur, en fait. On va partager en empathie, on va partager leur fardeau. Donc, à la base, c'est des personnes altruistes et c'est très positif. Donc, je voudrais dire à quelqu'un qui peut-être est très stressé, être stressé, ça peut être positif, mais attention que ce stress ne bascule pas dans quelque chose qui va nous faire du mal et qui va commencer à nous détruire, alors que c'est fait pour aider les autres. Mmh. Et du coup, c'est où mettre les limites. Il y a un moment où on passe du soulagement de l'autre à une inquiétude à l'intérieur. Et là, ça bascule, ça vrille. Et je pense que c'est très positif. Juste une petite anecdote.
Vas-y.
Comme ça qu'on s'est rencontrés. Comment j'ai réussi à séduire ma femme. C'est sur une question. Non, c'était pas l'hôpital, mais elle était à l'hôpital presque. Parce qu'elle sortait justement en cancéro et t'avais vu quelqu'un qui était mort dans des circonstances très compliquées, qui était proche de toi. Et donc, moi j'étais pasteur stagiaire et un peu en dépression. Parce que je venais d'avoir un crash sentimental, donc j'avais une charge mentale très négative. Parce que je me dis, mais pourquoi ça a pas marché, pourquoi? Donc j'étais paumé. Voilà. Paumé, chargé et perdu. Et toi, t'es arrivé. En tant qu'infirmière, et tu m'as posé quoi comme question ?
Ben, je t'ai demandé, en gros, pourquoi la souffrance, pourquoi...
Donc, dans une rencontre de jeunes.
Voilà.
Donc, il y a deux jeunes qui ont des mentalités de petits vieux, il y a elle et il y a moi. Donc, un pasteur stagiaire perdu et une infirmière tourmentée.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc, ouais, c'est ça, pourquoi la souffrance ?
Du coup, je t'ai demandé, voilà, pourquoi la souffrance
et c'est...
Pourquoi Dieu permet, des fois, voilà, des choses comme ça ou...
Et c'est vrai que, du coup... Si j'avais pas souffert et été dans cette situation de trouble, j'aurais pu arriver avec des phrases toutes faites en disant la souffrance, Dieu la permet et puis en fait on prie, on est délivré et puis fais 1, 2, 3 et tu fais bien ce process là et puis il y en a plus, etc. Donc je suis arrivé avec beaucoup plus d'humilité en disant la souffrance, c'est compliqué. Là pourquoi Dieu permet que cette personne soit partie en vérité ? Je sais pas. Et du coup,
c'est comme ça que vous vous rencontrez.
Il m'a dit en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Et là, c'était un coup de foudre.
Donc, j'ai coup de foudre. Réponse.
Wow. Et c'est dit, il est aussi paumé que moi. On est fait pour se marier.
C'est beau.
Voilà, c'est hyper. Ouais. Voilà, c'est le mariage sexy dans un CIGEM en France.
Wow.
Très original.
Ouais, et à la base, en fait, moi, je pense que d'être quelqu'un peut-être trop sûr de moi. Donc, c'est heureusement. Quelque part que j'avais eu cette souffrance et ces choses-là, toute cette pression.
T'as eu un peu d'empathie pour elle, finalement.
Mais ouais. Pour elle et puis pour les autres. Parce que je crois que Dieu a augmenté aussi ma charge mentale. Parce que c'est bon de pouvoir aimer les autres et ne pas être centré sur soi. Mmh. Alors après, attention à basculer dans... on ne peut pas assister et sauver le monde, quoi. C'est Jésus le sauveur. Hein. Donc faut faire... Il y a toute la limite là-dedans. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis du coup, on a décidé de servir ensemble. Bah oui, parce qu'on était prêts à aimer les gens, autant se marier, autant passer un petit bout d'existence. Je me suis dit, c'est lui que je veux. Puis moi, je me suis dit, étant donné que j'ai cherché une candidate pour me suivre dans le TGV de l'église, je me suis dit, c'est bon, ça va être le copilote et on est parti. On allait vite,
Ouais. C'est
original.
Original. Merci pour le mot parce que là j'étais en train de chercher. Et c'est intéressant, tu parles que toi-même t'as vécu à cette époque-là une charge mentale. Donc est-ce que les hommes peuvent vivre la charge mentale ?
Oui, les hommes. Alors les hommes sont plus simples dans le sens qu'ils compartimentent. Donc les choses d'un côté. Conscience des choses, s'inquiéter pour les choses, c'est un aspect. Mais après, l'homme, il est capable de le parquer dans un coin de sa tête. Après, il va penser aux autres, et ça va être les aspects relationnels. Donc, ça, les relationnels. Puis après, soi-même, il va penser à soi. Mais il va réussir à peu près à compartimenter, alors que la femme, je ne veux pas être cliché, mais c'est plus global. Vous arrivez à tout cumuler.
J'ai une image excellente. Ouais. Pour moi, l'homme, c'est la commode, hein, les tiroirs. Ouais. Puis la femme, c'est un gros panier de linge.
Voilà, c'est ça.
Et des vêtements. Ah, des vêtements. On pense dans un gros panier. Tout est entremêlé, tout s'entrecroise, tandis que l'homme est vraiment compartimenté. Mon mari, lui, est vraiment, vraiment
extrêmement compartimentée. Si je lui parle de quelque chose qu'on doit régler, il doit ouvrir le tiroir parce que là, c'était pas ouvert.
Et toi, tu dois
attends
trier.
Un petit peu.
Et toi, tu dois trier ta carte
d'adresse. Et moi, je trie. Mais c'est vrai, on est très émotionnel. Donc, tout s'entrelace, tout s'entrecroise. Les émotions vont avec les relations, bref. Et tout s'entremêle. C'est plus facile pour nous, je pense. On gère pas la charge mentale, je pense, de la même manière. Mais l'espoir est le même.
L'espoir est le même.
L'espoir est le même.
Mais le tiroir peut être très lourd.
Le tiroir peut être lourd. Alors, on se met bien d'accord. Je suis pas du tout quelqu'un d'organisé au niveau du rangement quotidien. Je veux juste dire que l'homme, il est compartimenté dans sa tête, mais absolument pas dans la chambre. C'est deux choses différentes.
Parce que sinon,
je serais un escroc de dire que je suis compartimenté dans le reste. Voilà, je suis compartimenté au niveau de mes pensées, mais pas au niveau de mes. Maintenant, c'est vrai que l'homme, il arrive à faire ce placard au moment où il perd pied, c'est lorsque un compartiment explose. Et surtout, il y a quelque chose que Dieu a demandé à Adam dans le jardin, c'est tu vas être le gardien du jardin. Il y a quelque chose dans le leadership qui est tu es quand même en charge. Donc Adam a bien été mis en charge par Dieu. Tu vas veiller sur les animaux et sur les arbres. Donc il avait un job à faire et il a pas super bien fait. On va dire là, voilà. Et il y a un moment où il n'a pas réussi à gérer notamment la relation avec sa femme. Donc il a compartimenté plutôt bien les deux tiroirs, le tiroir arbre, le tiroir animaux. Mais au niveau de comment gérer Ève, il est un peu parti en vrille. Et là, il n'était plus trop en charge. Et après, même, il a essayé de se décharger en n'assumant pas. Et c'est pour ça qu'il dit bah, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, etc. Mais c'est parce que c'est un tiroir qu'il avait complètement raté. Il n'a pas pris ce leadership, il n'a pas pris la mesure. Peut-être que des fois, on se croit peut-être un peu, on se voit plus beau que l'on est, quoi, ou plus capable que l'on est. Et là, un homme qui sent qu'il perd pied, il peut descendre vite et bas. Et y a quelque chose qui est assez intéressant, même si c'est terrible, on va aller dans le plus glauque, mais quand on regarde notamment les tentatives de suicide. Il y a beaucoup plus de tentatives de suicide de femmes que d'hommes. Toutefois, quand on regarde les personnes qui sont vraiment mortes, il y a plus d'hommes que femmes. C'est-à-dire que les femmes sont plus inquiètes et le stress va monter plus vite. Mais l'homme, lorsque le stress arrive, il est encore plus destructeur. C'est-à-dire qu'il peut aller des fois jusqu'au bout et se saborder parce que quand un homme perd l'espoir et qu'il est en charge ingérable, il va aller jusqu'à peut-être commettre l'irréparable. Donc c'est bizarre. C'est-à-dire l'homme est fort et boum, ça craque d'un coup. Et moi c'est ce que j'avais vécu un petit peu avant de rencontrer Nathalie. J'étais très solide, j'avais déjà l'église, le ministère, j'avais réussi dans mes études, j'avais une famille épanouie au niveau de mes parents, etc. Donc il me manquait plus que l'aspect sentimental. Et puis voilà, toute ma commode était pleine de belles choses. Et quand je me suis rendu compte que j'avais complètement échoué dans le tiroir sentimental, c'est toute la commode qui tout d'un coup a commencé à s'effondrer. Donc c'est pas si solide que ça un homme, voilà.
Mais c'est important de le souligner parce que, comme je disais, on associe beaucoup la charge mentale à la femme et du coup, et puis en plus de mettre beaucoup de responsabilités sur l'homme, elle est différente.
Elle est différente.
Différente, mais elle peut être présente et dans tous les cas, en tant qu'homme chrétien, il y a une vigilance aussi à avoir, puis une prise de conscience aussi à avoir. C'est pas parce que je suis un homme que je suis invincible, que je dois faire taire tous les symptômes. Tous les symptômes de stress, il y a des choses à faire parce que ça peut vraiment prendre des proportions assez graves. Et comme on l'a dit, la charge mentale, c'est un nouveau terme, entre guillemets, moderne. Ouais. C'est vrai que quand je lis la Bible, je vois pas trop de charge mentale, burn-out, il n'y a pas ces mots décrits. Mais par exemple, on parle beaucoup de l'inquiétude. Tu as dit, le mot le mieux pour le définir, c'est l'inquiétude, s'inquiéter. Et on parle beaucoup de l'inquiétude, puis notamment de Marthe. Moi, je trouve que c'est un bon exemple. Et puis dans le côté masculin, on a Moïse aussi, qui était quand même...
Élie. Élie au Carmel, il a
Ouais, c'est vrai, ouais, ça. Bah, tu vois, ils ont
un moment plutôt compliqué.
Oui, un moment plutôt compliqué, mais tu pourras nous en parler. Mais on peut, Marthe, quand on regarde son histoire, moi, franchement, j'ai de la compassion. Hein, parce que tu te dis, c'est elle qui a dit à Jésus, eh, viens, Jésus. Elle l'a invité, elle l'a accueilli. Jésus est là, viens, Jésus, et tout. Et là, bah, prépare à manger. Bon, bah, pas de bol, elle s'est plainte. Et elle se fait dire, bah, écoute, Marthe, c'est toi qui fais pas la bonne chose, mais Marie fait la bonne chose. Je trouve ça toujours un peu dur pour Marthe. Et tu te dis, bah, Marthe devait, avait cette charge mentale où elle arrivait, elle a pas réussi à choisir la bonne part à cause de ses inquiétudes, finalement.
Tout à fait, oui. À ce moment-là, tout à fait. Je voulais juste préciser quelque chose, Annabelle. On parlait que cette notion de charge mentale était assez récente. Et c'est vrai, en fait, c'est donc une personne qui a évoqué cette notion. Donc, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant?
Ça fait 2 ans.
Et juste pour dire que la charge mentale, en fait, n'est pas forcément négative aussi. Mm-hmm. Parce qu'on va dire que c'est ce qui nous différencie de l'animal. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que forcément, le fait d'être humain, forcément, on a des responsabilités. On a des responsabilités. Donc, c'est normal aussi d'avoir à gérer des choses, de planifier des choses dans notre tête, d'organiser.
De penser que j'ai un micro, ça, et que je peux pas y toucher.
C'est ça.
Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais toucher le micro? Ouais. Qu'est-ce que les internautes vont penser?
Ça,
qu'est-ce
que les spectateurs vont dire? Ah.
Donc, bon. Donc, du coup, j'ai vu où j'en suis.
Non, mais c'est vrai que la vie, voilà. Ça va vite.
Donc c'est aussi, voilà, un des, voilà, signes qu'on est humain. Et voilà, c'est normal, du coup, d'avoir ce genre de choses dans la tête. Mais c'est juste que la personne qui a évoqué donc cette notion-là, en fait, a fait beaucoup de bien aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes ne sont pas dans la charge mentale, mais dans la surcharge mentale.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, il y a beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était beaucoup, on avait mis l'accent sur les femmes, parce que les femmes, justement, au quotidien, les enfants, les tâches, et puis comme on disait, voilà, elles sont pas dans des compartiments, donc du coup, elles passent à plein de choses en même temps, elles pensent à... Voilà. Excusez-moi, j'ai perdu mon idée.
Du coup, c'était une bonne chose.
Oui, voilà, c'était une bonne chose, parce que du coup, pendant longtemps, voilà, les femmes n'arrivaient pas à identifier pourquoi elles étaient toujours sous tension psychologique, parce qu'en fait, la charge mentale, la surcharge mentale, en fait, c'est invisible. Mm-hmm. Et c'est comme un fardeau, en fait, qu'on porte. Et c'est vrai que ça a fait du bien quand cette personne qui s'appelle, je crois, Emma, qui avait fait une BD, en fait, sur ça, ça a fait beaucoup de bien, parce que ça a été aussi une prise de conscience pour toutes les femmes et aussi les hommes, de dire, bah, cette tension, cette pression psychologique que j'ai en permanence, bah, c'est ça que j'ai, et en fait, tout le monde a un peu ça aussi. Et donc, c'est comment maintenant, je vais gérer ça et comment faire avec. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans la Bible, on retrouve ces symptômes-là aussi, c'est cette tension psychologique permanente. Moi, c'est vrai que l'exemple de David aussi me parle énormément, parce que dans les psaumes, à plusieurs reprises, il s'épanche devant Dieu, et à plusieurs reprises, il décrit en fait des sensations assez fortes. Je pense quand il dit qu'il sent ses os se consumer au-dedans de lui, ou quand l'angoisse, enfin, il décrit des fois l'angoisse, enfin, des choses assez fortes.
Il parle de son âme.
On se dit, voilà, de son âme, beaucoup. Et du coup, on se dit, bah, lui, il était en plein dedans, quoi, ce qu'il vivait. Il avait aussi des grosses responsabilités. Je pense notamment à Tsilag. Ce qui s'est passé, c'est que quand les ennemis ont pris les femmes, les enfants, les ont amenés, en fait, tous ces hommes se sont tournés vers lui. Donc lui, c'est lui qui était à ce moment-là finalement en charge du groupe. Et du coup, et d'ailleurs, ils l'ont accusé. D'ailleurs, à ce moment-là, ils l'ont même rendu responsable de ça. Mais là, on se dit que déjà, il y a bien longtemps, en fait, voilà, dans la Bible, c'était évoqué cette forme de tension permanente et voilà ce fardeau donc c'est beaucoup aussi lié aux responsabilités qu'on a, et c'est vrai comme Moïse finalement. Moïse était seul à la tête de tout le peuple.
Bah, c'est sûr, si on vivait tout seul, reclus, qu'il n'y avait pas de gens autour de nous, aucun défi, aucune émotion, peut-être que la charge mentale n'existerait pas, on n'aurait pas besoin de faire des missions.
C'est ça, tout
mais, à fait. Mais puisque nous vivons dans un monde et qu'on interagit, il y a des circonstances, on a des émotions, on vit des choses, on y est sujet, mais comme on l'a dit dans l'émission, c'est normal entre lui-même, et par contre, ça va vraiment à notre réaction et la manière dont on va choisir de le vivre, et les limites aussi qu'on va poser qui vont faire toute la différence. Parce que, par exemple, dans vos deux parcours, si vous en étiez arrêté juste avant la rencontre originale, ben vous auriez pu sombrer, quoi, parce que là, ça aurait été trop, la commode s'effondre, je sais pas quoi faire. Là, je suis dévorée par ma vocation infirmière, les gens meurent autour de moi, et ben ça me prend tout, je suis complètement absorbée. Mais on voit aujourd'hui que vous êtes quand même des personnes épanouies.
Moi, je pense que c'est une chance d'être sensible, et je voudrais vraiment le dire, voilà, c'est une chance d'être sensible. Cette conscience, elle vient de Dieu. C'est un don que Dieu t'a donné de pouvoir avoir la capacité de t'inquiéter. Quelqu'un qui s'inquiète pour les choses, il va avoir tendance à mieux s'organiser. Donc, s'il arrive à aller vers juste une meilleure organisation sans devenir complètement maniaque, c'est parfait. C'est ça l'objectif. Quelqu'un qui n'est pas du tout de conscience des choses, il va faire n'importe quoi. Il va faire des bêtises, qui va avoir un coût, et les autres vont payer derrière. Donc, il faut être conscient des choses. Il y a un moment où ça bascule. Être conscient des autres, c'est extraordinaire. C'est l'empathie. S'il y a quelqu'un, combien de fois Jésus pleura quand il est en face de Lazare, et pourtant Lazare, il le voit mort, et il pleure parce que Jésus voit, justement, tu parlais de Marthe et de Marie, il voit la souffrance des autres, et il se dit, mais il est impacté parce qu'il est conscient des autres. C'est merveilleux, dans le livre des Hébreux, il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui est suffisamment sensible pour comprendre les souffrances que l'on vit. Donc c'est merveilleux. S'il y a quelqu'un qui a bien de la charge mentale, c'est Jésus, et c'est Jésus à la croix, quoi. Et justement, c'est un moment où il dit, c'est terrible, la pression, l'angoisse, il a des grumeaux de sang. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est de la charge mentale maximale? Et puis après, soi, après, faut penser un tout petit peu à soi quand même, mais ça fait beaucoup de choses, voilà. Mmh. On a vu à peu près la définition, les aspects. Mmh. Maintenant, faut mettre les limites, quoi.
Ouais, c'est ça, faut vraiment mettre les limites. Et parce que, comme on voit dans l'histoire de Marthe, Jésus lui dit quand même, t'as choisi la mauvaise part. Ouais. Donc c'est que face à toutes ces pensées, ces défis qui s'offrent à nous, il y a le risque toujours de choisir la mauvaise part. Et puis, comme tu disais, à un moment, ça bascule. Avoir conscience des autres, c'est super. Mais le moment où tu bascules et où ça t'éloigne de Dieu, où tu perds ta confiance en Dieu, où ça vient te ronger comme David, ça le ronge à l'intérieur, il pleure nuit et jour, etc. Mmh. Là, il faut se poser la question. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus, il n'y a plus de joie d'aimer, il n'y a plus de joie de donner, il n'y a plus de joie de servir. C'est que peut-être on a basculé du mauvais côté. Donc demain, on verra comment on peut regagner une... Vous avez trouvé le mot, j'en suis sûre. Et demain, on va voir ça dans Parole de Femme. Nous serons toujours avec Yvan et Nathalie. J'espère que tu seras là, Yvan, encore.
Ouais,
c'est bon,
là.
Tu reviens. C'est bon, il revient. Donc on se dit demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.